Bonjour, vous êtes en relation avec le SAMU. Ne raccrochez pas s'il vous plaît, votre appel va être pris en charge.
Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain, ils sont là !
J'ai vu un mec a vraiment tiré genre à n'importe comment pour les gens quoi.
Il y a deux personnes étalées au sol.
On vient de prendre des balles à côté du Bataclan, mon mari est blessé, moi aussi.
Les secours ils arrivent.
C'est l'histoire d'un vendredi 13 qui porte en lui le malheur de tout un pays. L'histoire d'une série d'attaques terroristes sans précédent.
Ah, c'est pas possible, quoi. Ça a canardé à tout va.
Qui va plonger la France et le monde dans l'effroi.
Ils ont mitraillé tout à la calade.
Toute la terrasse est par terre.
Ce 13 novembre 2015, en quelques heures.
1, 2, 3, 4.
130 personnes perdent la vie. Près de 500 autres sont blessés.
On est tous très touchés par ce qui est une attaque terroriste de grande ampleur, coordonnée, multisite.
Cette soirée d'horreur, eux l'ont vécu en première ligne.
Il sait qu'on est face à une scène de guerre.
C'est une véritable boucherie. France, c'était impensable, invraisemblable, mais surtout que ça n'était jamais arrivé.
Il n'y a pas eu de mort, autant de morts dans Paris depuis la Libération, en fait.
Le hasard a fait que ces policiers, médecins et pompiers sont arrivés les premiers sur les scènes de crime.
La calache, tu sens que c'est puissant.
C'est dingue.
Portant secours jusque dans l'enceinte même du Bataclan.
Il faut absolument les sortir de cet enfer.
À travers des témoignages intimes.
Je suis rentré chez moi, je me souviens que oui, j'ai fondu en larmes.
Et pour la plupart, inédit.
Jusqu'à présent, j'ai toujours dit non. Mais au bout de 10 ans, je me suis dit, si je suis pas capable d'affronter, c'est que jamais je passerai à autre chose.
Retour, minute par minute, sur cette nuit du 13 novembre 2015, dans les pas et le regard de ces héros du chaos.
Le 13 novembre, même si c'est une belle journée pour un mois de novembre.
Le matin, je joue au foot. Bon, on fait match nul, je crois, je me rappelle.
On est vendredi 13. On plaisante sur la loterie, sur le pactole à gagner.
Un jour comme un autre, dans une France sous tension.
Le risque terroriste 2015, il est quand même extrêmement important. On sent qu'on va s'en prendre un gros et on se prépare.
Le SAMU de Paris, bonjour.
Quelques heures seulement avant les attaques, le SAMU et les pompiers organisent justement un exercice au Fauzaire de répétition générale.
Le scénario du 13 novembre au matin de l'exercice, c'est une attaque par plusieurs équipes de terreau dans Paris et la proche banlieue avec des armes, des fusils d'assaut et des armes de poing. Ils sont vers l'Opéra, ils remontent, ils vont un peu dans le 92. On avait vu large, hein, il y avait 75 blessés, une trentaine de morts. On pensait pas qu'on l'aurait le soir même, mais on s'y préparait. Ça faisait des mois qu'on se préparait.
La France vit sous la menace terroriste depuis le 7 janvier 2015. Et l'attaque contre Charlie Hebdo, suivie deux jours plus tard de la prise d'otage à l'hypercachère.
On a eu les attentats de janvier. On savait que ça allait arriver un jour ou un autre. C'était qu'une question de temps.
En avril 2015, près de Paris, Tony et ses deux collègues ont déjà empêché le pire de se reproduire.
Olivier, Nicolas et moi, on est en patrouille et on a remarqué deux individus suspects sur le parcours du marathon de Paris qui avait lieu le lendemain. Et au moment où je commence à faire ma palpation, l'individu commence en fait à marmonner des versets du Coran. Donc ça m'interpelle, ça m'interroge. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils avaient un sac, genre un sac cabas de course. Et Olivier, quand il a ouvert le sac, il est devenu blême. Il me dit, c'est de l'explo. J'ai dit, quoi? Il me dit, ouais, c'est de l'explosif. Il y avait 480 grammes de TATP.
Une substance utilisée dans la fabrication de gilets explosifs.
Je suppose que le lendemain, ils allaient faire quelque chose avec, quoi.
Un attentat déjoué in extremis. Mais ce 13 novembre 2015, personne ne le sait encore, un commando de terroristes s'apprête, lui, à parvenir à ses fins.
Le soir du 13 novembre, je fais mon petit trajet pour aller jusqu'au stade. France-Allemagne, grand match de foot. On sait qu'il y aura du monde, c'est des familles, c'est des couples. Donc l'ambiance très populaire, les gens rigolent, ça boit de la bière, enfin c'est vraiment des événements que j'aime bien faire.
Le match est sur le point de démarrer lorsque trois terroristes se présentent aux abords du stade. Nichés dans la foule, ils sont bien décidés à semer la mort sur leur passage.
Moi j'ai ma porte attitrée, donc la porte D. Je suis chef d'équipe, une équipe de 5 à 7 personnes. Et leur but, c'est s'assurer que les gens qui rentrent ont bien leur billet, qu'ils ne rentrent pas à deux personnes. C'est d'éviter les skieurs, c'est d'éviter que des personnes rentrent sans billet.
Une vigilance de tous les instants qui va contrecarrer les plans des terroristes.
Ils ont été recalés parce qu'ils n'avaient pas de billet, ça je le sais. Le match commence. Nous, on attend environ toujours 5-10 minutes avant de fermer toutes les portes pour ceux qui arrivent en retard. Et une fois que les portes sont fermées, moi et mes agents, on enlève les barrières. Je suis face au stade. Et derrière moi, il y a le bar, enfin, tous les bars à côté, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que on entend une explosion.
Il est 21h19. Un premier terroriste vient de déclencher sa ceinture explosive à quelques mètres de la porte D. Un spectateur meurt sur le coup.
C'est très brut, assez violent, assez instantané.
À l'instant, une bombe a explosé. Waouh, on dirait du top de pompe.
Moi j'ai reçu des débris sur le dos. Heureusement j'avais mon blouson donc j'ai pas été blessé.
Patrice était à quelques mètres seulement du kamikaze.
Je vois pas tout de suite ce qui se passe en fait. Un accident, une bombe de gaz, enfin j'avais pas idée ou conscience de ce que ça pouvait être. Donc moi je fais rentrer mes agents. Une fois à l'intérieur, je vois qu'il manque une personne. J'avais peur d'avoir perdu un agent au sens propre. Heureusement, il s'était caché dans un des bars en face. Donc, il a eu peur, en fait. Et je le comprends. Hein. Juste après, je vois une dame arriver en sang, avec la jambe ouverte jusqu'à l'os. L'image n'est pas belle à voir. Hein. Donc nous, on l'a fait rentrer immédiatement. J'appelle le SAMU. Je regarde un peu ce qui se passe sur le parvis. C'est là que je vois ce qui semble être un bout de jambe. C'est une jambe brûlée, c'est une jambe déchiquetée. Ça, je peux vous dire que ça, je m'en rappelle.
21h22, 3 minutes après la première détonation, un second kamikaze se fait sauter. L'explosion survient cette fois près de la porte H. 6 personnes sont blessées.
Otoki, ça panique. Mon collègue me dit j'ai vu une jambe passer devant moi. Donc c'est là qu'on se dit ouais, c'est chaud. Là, quand même, qu'il se passe, c'est chaud.
Alors qu'un troisième terroriste rôde encore autour du Stade de France, les pompiers portent secours au premier blessé. Au même moment, dans les tribunes, parmi les 80 000 spectateurs, personne ne doit se douter de quoi que ce soit.
Il y a des trucs qui viennent nous voir, ils nous demandent ce qui s'est passé. Et nous, on leur dit, écoutez, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. En fait, il ne faut pas créer la panique également en fait, chez les spectateurs.
Plus au sud, dans la capitale, le calme règne encore au centre d'appel du SAMU de Paris.
J'ai une copine qui ne peut pas faire sa garde et elle me dit « ça t'embête de faire la garde ». Je prends la garde du 13 novembre en régulation. C'est jamais bon de prendre une garde un vendredi 13.
Bonjour, vous êtes en relation avec le SAMU.
Il est 21h passé, ce 13 novembre 2015, quand brusquement, l'activité du SAMU s'accélère.
Il y a des gens qui courent, mais, mais qu'est-ce qui se passe?
J'appelle le SAMU, j'arrive pas. Ça tire.
Appelez le SAMU, s'il vous plaît.
Je n'arrive pas à répondre à tout le monde, on a pris 800% d'appels de plus qu'en temps normal. Et ça, c'est toujours un signe qu'on a beaucoup d'appels, c'est un signe qu'il se passe vraiment quelque chose de grave.
Après Saint-Denis, un deuxième commando, composé de trois terroristes lourdement armés, circule en voiture dans l'est de Paris. Leur cible, les terrasses. Armés de leur kalachnikov, ils mitraillent d'abord les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. Deux minutes plus tard, ils surgissent devant les établissements La Bonne Bière et la Casa Nostra, avant de poursuivre leur périple meurtrier devant le bar La Belle Équipe. Et pour finir, l'un des trois terroristes déclenche sa ceinture explosive dans le café Le Comptoir Voltaire, le tout en l'espace de 16 minutes.
Oui, bonjour, je pense qu'il y a une fusillade en bas de chez moi.
D'accord, ok, on gère.
Faites vite, il y a des gens qui sont en train de souffrir.
Oui, on appelle tout le monde.
Les mecs vous disent, il y a une voiture qui s'arrête, il y a des mecs qui descendent, ils rafalent, il y a des morts, il y a des blessés partout, les gens sont blessés, venez nous chercher, aidez-nous. Oui, mais c'est un chaos.
Un chaos qui, minute après minute, terrasse après terrasse, va mobiliser des secours qui n'ont jamais été confrontés à des scènes pareilles.
Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un attentat.
Il est 21h24 quand les terroristes passent à l'attaque, rue Bichat, dans le 10e arrondissement, devant les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge.
Je suis en patrouille avec mes collègues au niveau de Stalingrad. Pour nous, on ne part pas dans un contexte d'attentat. On dit, tiens, des coups de feu, bon, on va aller voir ce qui se passe parce que c'est quand même une rue où normalement c'est relativement calme.
Il faut à peine plus de 2 minutes à Charlie et ses collègues pour atteindre le lieu de la fusillade.
On voit que c'est la panique générale. Venez par ici, s'il vous plaît, par ici, on a besoin d'aide. C'est vraiment des appels au secours. Il y a beaucoup de sang, il y a des chairs un petit peu partout aussi, parce que c'est pas des... Des fois, vous voyez des personnes qui sont quasiment mutilées, en fait. C'était un carnage. C'était plus ni moins un carnage, et on se dit forcément que ça n'a pas tiré au pistolet. Ça a défouraillé. À n'en plus finir, en fait. Moi, je vais au niveau de l'entrée du bar, le Petit Cambodge. J'ai une première personne, une première victime juste devant l'entrée, en fait, qui est allongée. Et à côté d'elle, il y a, je pense, un ami ou une personne de sa famille qui est en train de pleurer. Je tente un massage cardiaque. Je vois que ça réagit pas pour autant. J'ai une personne qui se dit médecin, qui me rejoint, qui me dit la personne est décédée, ça sert à rien. Il y a une autre personne qui est au sol, je tente aussi un massage cardiaque, il me dit également que c'est déjà trop tard. Vous dites j'essaye de sauver une personne, elle est déjà morte. J'essaye de sauver une deuxième personne, non, elle est morte aussi. Au bout d'un moment, vous essayez de regarder où est-ce qu'il y a de la vie en fait. Je rentre dans le bar, je vois une personne qui est assise, elle a une hémorragie au niveau de la jambe gauche. Moi j'avais une trousse de secours, mais en fait vous êtes vite dépassé parce que vous avez sur une trousse de secours, vous avez un pansement de compression, un garrot. Vous n'allez pas pouvoir sauver une vingtaine de victimes, ça c'est sûr. Il y a un moment donné où on se dit on n'est pas assez.
On est en patrouille classique sur le 11e. On entend sur les ondes radio, il y a beaucoup de morts, il y a des blessés, il y a des tremblements, il y a de la tension dans la voie. Ils veulent absolument qu'on arrive vite, il faut du monde, il faut des renforts.
Seulement, l'équipage de Jean-Baptiste s'apprête à intervenir, sans le savoir, sur une seconde fusillade perpétrée par les mêmes terroristes.
En chemin, des gens nous font signe. Des gens un peu en panique. On ouvre la fenêtre et puis mon collègue à l'arrière dit au premier monsieur qui vient nous voir, oh, on ne peut pas s'arrêter, on va sur une fusillade. Et je vois un corps allongé, on va quand même s'arrêter. Et moi, quand j'ai vu ce corps allongé, je me suis dit, c'est un accident de la route, c'est quelqu'un qui a été renversé. Je descends et j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit j'ai un trou dans ma voiture. Et je lui dis, mais un trou dans votre voiture, montrez-moi. Enfin, j'avance avec elle, je lui dis, montrez-moi. Et en fait, c'était des impacts de deux balles. Elle venait de prendre des impacts de balles dans sa voiture.
Il est 21h26. Deux minutes après la première fusillade, les terroristes surgissent devant les terrasses du café La Bonne Bière et du restaurant La Casa Nostra. Un conducteur qui passait par là a été mortellement touché.
J'ai vu un mec qui a vraiment tiré genre à n'importe comment sur les gens quoi.
Ça a carnardé à tout va.
Quelqu'un a appelé la police ?
Ouais, c'est pas possible quoi.
C'est une véritable boucherie. Je vois des corps allongés au sol. Ça fait un peu une situation qu'on vit au ralenti, un peu comme dans un rêve. On essaie de. Il faut déjà que le cerveau comprenne ce qui se passe. On arrive à faire des positions latérales de sécurité pour certaines personnes, mais quand on est sur un blessé, on est sollicité à côté, on essaie de prioriser les interventions, et en fait on est débordé. On est débordé par la situation.
Allez les gars, ça vous fait hâte de sécurité.
Rue de la Fontaine, place de la Fontaine au roi. Rue de la Fontaine au
roi. Nous faut des renforts et laisser les gens là, avec des tirs par balles.
Avec casse de la Fontaine.
Fontaine-le-Roi.
On a une bagnole qui a libéré deux tireurs. Je suis en contact avec les flics. C'est la merde.
À prendre très cher, parce que les mecs sont mobiles, ils se déplacent. Les flics les ont pas encore croisés, les ont pas encore coincés. Donc tant qu'ils se déplacent et qu'ils ont des munitions, ils vont tuer des gens. Donc en fonction du nombre de chargeurs qu'ils ont, ça va scorer. Quoi. À un moment, on va décider d'envoyer des équipes, parce que sinon on va ramasser que des morts. Donc on décide d'envoyer à l'endroit où ça nous paraît safe.
Protection maximum, on s'engage pas tout à l'heure.
Plusieurs ambulances prennent la direction des terrasses ensanglantées.
Et c'est une décision qui n'est pas simple à prendre, d'envoyer ses collègues au casse-pipe. Hein. On sait bien que là, s'ils croisent les terreaux, ils vont s'en prendre aussi. Hein.
Dans Paris, les terroristes sont pour l'instant introuvables. Ont-ils quitté les lieux de la deuxième fusillade ou sont-ils encore à portée de tir ?
Il y a un tournant à ce moment-là, c'est une personne qui vient nous parler. Il nous dit les tireurs sont rentrés dans ce hall d'immeuble. Je l'ai attrapé comme ça, je lui ai dit où ça ? On s'est mis derrière un véhicule, on a pointé nos armes en se disant ça va revenir, ça va ressortir. À ce moment-là, on s'attend à toutes sortes d'attaques. Hein. Ceinture d'explosifs, on tire, coup de couteau. On se dit qu'on peut mourir, mais on leur tirera dessus. Même si on est blessé, on ripostera, mais on fera quelque chose. Voilà, c'est dans notre ADN, et on est formé, on est là pour ça.
Devant la bonne bière, le raid est appelé en renfort. Au même moment, les pompiers parviennent jusqu'au lieu de la première fusillade, les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge.
Lorsque vous voyez les pompiers qui arrivent, dans le visage, dans le regard, on voit très bien qu'eux aussi, en fait, c'est waouh, qu'est-ce qu'on peut faire ? Où est-ce qu'on peut aider ? Ils ne savaient pas où donner de la tête non plus, en fait. On vous apprend à intervenir sur des personnes décédées, mais pas sur une tuerie de masse comme celle-ci. Et même, quand bien même vous faites des exercices, ça enlèvera pas le poids de la réalité.
Rue Bichat, les terroristes ont laissé derrière eux 15 morts et 10 victimes en urgence absolue.
Vous avez des témoins du coup qui viennent, qui vont nous voir. Oui, j'ai mon frère, j'ai un ami qui était au bar ici. Est-ce que vous savez s'il est mort ou s'il est encore vivant ? Et aussi, vous avez des téléphones qui sonnent. Il y avait des téléphones qui sonnaient et ils sonnaient. Ils sonnaient, on savait très bien que les personnes essayaient de joindre une personne qui était déjà décédée, qui était dans le bar. Derrière le téléphone, il y a une personne qui se doute que jamais la personne va répondre, en fait. C'est quelque chose d'assez dur, quand même.
Devant la bonne bière, théâtre de la deuxième fusillade.
1, 2, 3, 4.
Le bilan est là de 5 morts et 8 victimes en urgence absolue.
À un moment donné, on a le raid qui arrive. On a toujours potentiellement des tireurs qui sont réfugiés dans un immeuble. Chaque appartement, chaque étage a été visité et toutes les portes qui ne s'ouvraient pas, ils défonçaient les portes. Fort heureusement, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne à l'intérieur.
Après avoir vidé leur chargeur de Kalachnikov, les trois terroristes ont repris leur route. Ils circulent toujours dans Paris à la recherche d'une nouvelle cible.
Bonjour, vous êtes en relation avec le SAMU.
Il y a des gens qui courent, mais il y a des gens. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Une progression suivie à distance par les équipes du SAMU.
J'appelle le SAMU là pour la meuf là. Okay. Putain, mais si elle a pris une bassosse, t'as vu, ça peut s'infecter ou si elle a un truc au cul.
On en a des appels de plusieurs endroits. Donc moi, très rapidement, je mets quelqu'un à la carte. Je prends une interne d'un des camions, je la mets à la carte. Je lui dis, chaque fois qu'il y a un appel, tu me le localises sur la carte. Je veux voir où c'est pour comprendre ce qui se passe.
Il est plus de 21h. C'est très calme dans le commissariat parce que les équipes sont dehors. Moi, je suis dans un bureau, je suis au deuxième étage. J'ai ce classeur en main et j'entends trois premiers coups de feu. Qui sont très aigus, qui me semblent lointains. Trois premiers coups, mais rapidement après, des dizaines d'autres coups de feu.
Ça tire, hein. Ça tire, gros. Ça tire, recule. Recule, gros, ça tire. On va prendre une balle perdue, gros.
Je les vois, ils sont devant.
Qu'est-ce qu'ils tirent ? C'est un attentat, je crois. Ouais, ça tire à la calache, non ?
Il est 21h36. Après avoir traversé le 11e arrondissement de Paris, les trois terroristes mitraillent la terrasse de la Belle Équipe.
Il vient d'y avoir une fusillade rue de Charonne. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Charonne, d'accord. Est-ce qu'il y a des blessés ?
Je sais pas, je suis pas devant, il y avait un homme avec une mitraillette, il a tiré sur tous les gens qui étaient dans le bar, ils sont ouverts les secours immédiatement, monsieur.
Je descends les escaliers en courant et je me retrouve dans le hall du commissariat et là sort le chef de poste, le collègue chef de poste, qui lui aussi a entendu les mêmes bruits. Et là, à ce moment-là, on a un jeune qui arrive en scooter, très rapidement, qui paraît affolé. Et il s'arrête à notre trottoir, il nous dit « il y a une fusillade rue de Charonne, il y a sans doute des morts. La rue de Charonne se trouve à même pas 100 mètres du commissariat. »
Avec son collègue, Laurent décide de se rapprocher du lieu de la troisième fusillade, à pied et arme à la main.
On a ces gens qui arrivent affolés, ça crie, ça court. On leur dit de se protéger, de se mettre dans les hauts d'immeubles ou sous les voitures. Là, on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave, jusqu'à arriver à l'angle avec la rue Federbe, où se trouve la terrasse de la Belle Équipe, le restaurant La Belle Équipe. Là, c'est très compliqué, très compliqué. Il n'y a même pas de son, il n'y a même pas de cri. Bizarrement, la terrasse, elle est silencieuse. Il y a des dizaines de corps allongés, inertes, pour la plupart avec des blessures graves. Et il n'y a qu'une femme qui est encore assise à sa table. Elle est assise à sa table. Elle tient son verre de bière à la main, sa main tient encore le verre. Elle a la tête baissée, comme endormie. Et je me rappelle de son foulard, elle avait un foulard rouge qui volait au vent. Elle était morte sur l'instant, quoi. Elle avait été figée dans la mort par la première balle, quoi. À ce moment-là, j'avais peut-être une trentaine d'années d'ancienneté, j'avais vu beaucoup de morts dans ma carrière, notamment en police secours. Mais là, la scène est tellement indescriptible que c'est trop. On reste quelques secondes comme ça avec le collègue figé et d'un seul coup, on se ressaisit et mutuellement, on se tape dans l'épaule en disant faut qu'on fasse quelque chose. Le collègue passe un premier message, radio, où il demande des renforts. On ne parle pas d'attentat à ce moment-là, on parle d'une tuerie, fusillade.
Sur le moment, fusillade, ça change de ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. On est excité.
Jimmy est sapeur-pompier au sein de la caserne Chaligny. Elle est située à 400 mètres de la Belle Équipe.
Ce soir-là, on est tous au réfectoire. Certains de mes camarades mangent, d'autres regardent la télé. Forcément, il y a le France-Allemagne. Et là, on entend qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés avec des victimes en état d'urgence absolue sur la voie publique. On monte dans le camion et c'est parti.
À l'approche de la Belle Équipe, le camion de pompiers croise une voiture de police qui file à vive allure. Jean est à son bord.
Là, on voit un homme couvert de sang qui nous fait des grands gestes, qui saute à moitié sur la voiture. Donc le réflexe, on s'arrête. Et trois, on sort. Et moi je lui dis monte tes mains, arrête d'avancer. Et le gars à gare, en fait, il dit non, mais moi je vous veux pas de mal, il y a des mecs qui sont arrivés, une voiture noire, ils ont tiré, ils ont tué tout le monde.
Ils ont mitraillé tout à la calade.
Toute la terrasse est parfaite.
À son tour, Jimmy sort du camion.
On sait qu'on est face à une scène de guerre. On a une trentaine, quarantaine de victimes à gérer.
Monsieur,
décide d'appliquer une logique qui me semble simple sur le moment. Une personne qui crie, c'est une personne qui vit. On doit choisir de traiter ces personnes-là en priorité. Madame, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous me voyez? J'ai une réaction. Ok, on peut faire quelque chose. J'ai pas de réponse. Je passe au suivant.
Hein?
Je vois un de mes collègues, par exemple, qui pose un défibrillateur sur une personne qui est éventrée, coupée en deux par une rafale. Il y a aucune chance que cette personne s'en sort. Je lui dis, laisse, continue, va voir les autres.
Oh là là,
là-bas, UR en face. UA, UR.
Chaque personne présente sur cette terrasse a un chronomètre au-dessus de la tête. Et nous, notre rôle, c'est d'arrêter ce chronomètre, au moins de le stabiliser.
J'ai une jeune fille, qui doit avoir 17-18 ans, qui est en pleurs, qui me prend la main droite, en disant « Oui, j'ai ma copine qui est par terre, elle respire plus, venez la sauver et tout. » Et bon, je me penche sur elle, malheureusement, je vois que c'est fini. Hein, les yeux révulsés, on distingue au moins 4-5 entrées de balles sur son torse. Donc, je lui dis « Les pompiers arrivent, j'ai « Pose-toi là, ta copine, on va la sauver, t'inquiète pas. »
Elle respire ici, elle respire là, j'ai des pleurs, je veux...
Ils ont mitraillé tout.
C'est pas qu'on leur ment. Et je peux pas lui dire ta copine est morte. Elle est déjà au fond du gouffre. Moi j'ai eu le sentiment d'impuissance qui est total. Quoi. On aurait été là sans être là, c'était pareil.
Il n'y
a pas une personne sur cette terrasse qui n'a rien. C'est les enchères à la vie. C'est-à-dire que je vais avoir un père de famille qui va nous dire « Venez voir ma femme, on a deux enfants ». Un jeune homme qui va nous dire « Venez, c'est ma sœur jumelle, on fêtait mon anniversaire, il faut que vous veniez nous aider ». C'est humain. Chacun veut sauver les siens et les gens qu'il aime. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Si je ne peux pas, on dit « Bah écoutez, il y a d'autres victimes. Votre sœur, restez bien auprès d'elle, parlez-lui. On revient vous voir rapidement. » Jusqu'à ce que sa sœur s'en aille et que... C'est comme ça, c'est la situation. On n'a pas le choix.
Le truc, moi, que je garde toujours en tête, c'est l'odeur. L'odeur de la poudre. La poudre chaude encore. Et en regardant machinalement au sol, je vois, mais ouais, je pense des dizaines, voire des centaines de douilles de je connais le calibre, de Kalachnikov.
Monsieur!
Moi, j'étais à l'armée, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Des horreurs comme ça, des massacres, oui, j'en ai vu à l'étranger, mais dans des pays en guerre. Mais en France, c'était impensable, invraisemblable, mais surtout que ça n'était jamais arrivé, quoi.
On se présente devant une femme qui présente une perforation par arme à feu, qui saigne, pas abondamment. La personne est consciente, elle nous parle, et elle nous dit que ça va.
Gardez conscient, ok? On arrive.
On continue notre tour.
Il y a besoin d'un arrêt ou pas?
Chaque minute, chaque seconde nous est comptée.
Hein?
Et on revient, la victime est décédée.
Il y a besoin d'un arrêt ou pas?
Parce qu'on ne l'a pas retournée. Et il s'avère que derrière, il lui manquait tout un morceau de flanc. La balle de Kalachnikov, quand elle est sortie, a tout arraché sur son passage. C'est moi qui ai décidé de laisser cette personne pour aller en voir une autre. J'aurai toujours cette culpabilité. C'est une certitude.
À quelques pas de la belle équipe, un poste médical avancé est installé dans un bar.
On va se servir de tout ce qu'on trouve pour pouvoir transporter les victimes. Tout ce qui pouvait nous servir, on s'en servait.
On les prenait, mais par le bras, par la jambe, avec le sang qui coule, les membres... moitié déchiré. Et au fur et à mesure des minutes, tous ces blessés qu'on emmène, une bonne partie décèdent. Et donc, des 10 morts qu'on avait tout de suite sur l'intervention, au fur et à mesure, on passe à 11, on passe à 12, à 13.
Parmi les terrasses prises pour cible, c'est à la belle équipe que le bilan est le plus lourd. 19 personnes ont perdu la vie.
On les a alignées le long du restaurant, le long du mur. Au début, sans bâche, parce qu'on n'avait rien, donc les corps étaient alignés, 1, 2, 3, 4, 5, et au bout d'un moment, on comptait plus, quoi.
Un moment, je prends conscience de ce qui se passe, je suis assaillé par la tristesse, j'ai une larme qui coule, peut-être deux, et une seconde après, terminé. C'est reparti. Je recours au camion et c'est reparti.
Au standard du SAMU, les appels continuent d'affluer.
Les secours arrivent.
Les opérateurs se mettent alors en lien avec la police.
Police Secours de Paris, bonjour.
Oui, bonjour, c'est le SAMU, c'est pour la fusillade qui est dans le 10e.
Oui, vous avez des infos?
Alors, justement, on va à la pêche aux infos avec vous.
Pour l'instant, on a tous les appels qui nous tombent dessus, on n'arrive pas à savoir d'où c'est parti et où ça continue.
Sur les ondes de la police, la confusion règne. Impossible pour l'heure de savoir où se trouvent les terroristes. Tous les effectifs disponibles sont alors appelés en renfort.
On est Nico, Olivier et moi au commissariat de Vincennes. On est à peine assis depuis 30 secondes. On entend un message qui parle des premières attaques sur les terrasses. On se regarde, je dis, je sens que ça va être une soirée de merde. On va directement sur Nation. Vu que c'est un grand axe qui t'emmène après plus loin vers le périph, on se dit automatiquement ils vont passer par là.
Les terroristes circulent à bord d'une voiture noire immatriculée en Belgique.
J'ai dit si on croise le véhicule, on percute, on fait les puits qui bougent et qu'on neutralise les personnes à l'intérieur. Moi j'avais pris le fusil à pompe, j'avais mis le fusil en action. Pendant qu'on attend, on entend une déflagration, une grande déflagration. Et on voit que c'est sur le boulevard Voltaire.
Il est 21h40. Le commando terroriste vient de cibler une nouvelle terrasse, celle du comptoir Voltaire. Cette fois, un seul des trois terroristes sort de voiture. Alors que les deux autres poursuivent leur route, il entre dans le café et déclenche sa ceinture explosive.
On remonte au boulevard Voltaire et on tombe sur le café, le comptoir Voltaire. On a l'impression que c'est Walking Dead. C'est vraiment l'image qui vient, quoi, parce que les gens ils sont hébétés, ils sont blessés en sang, mais ça court pas. Je vais faire une reconnaissance du bar. De visu tout de suite au sol, j'ai une dame que je sais, une serveuse, puisqu'elle a un tablier noir. Et j'ai un monsieur au sol qui semble être inconscient. Et tout au fond de la terrasse couverte, je vois un corps allongé, mais sur le dos. Et j'ai quelqu'un sur cet individu qui pratique un massage. Donc je me dis, c'est une victime.
Cet homme est en réalité le kamikaze. Il est mort sur le coup. Autour de lui, trois personnes sont grièvement blessées.
Au départ, on pensait qu'il y avait eu une grenade et que quelqu'un avait tiré, mais on ne voyait pas d'impact. Au bout de quelques instants, en regardant le sol, on s'est rendu compte qu'il y avait des boulons et des vis. Et là, on s'est dit, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas des tirs, il n'y a pas de douille. J'essaie d'interroger une victime qui est sur la terrasse, et donc là, la personne me dit, y a un mec qui est rentré, et ça a fait boum. Mais en France, on n'a jamais eu un terreau qui s'était fait sauter. On n'avait jamais eu un kamikaze. Là, tu te dis qu'on a franchi une étape. L'étape de l'horreur absolue.
Ce 13 novembre 2015, le cauchemar est pourtant loin, très loin, d'être terminé.
La journée du 13, je commence mon service à 14h30, 14h40. La journée est plutôt agréable. On est appelé pour un accident, tout simplement, de voie publique. On se dit, c'est la dernière mission, donc on va finir dessus et puis ça va bien se passer. Et à ce moment-là, il y a un homme assez grand qui arrive en courant, tout essoufflé, et qui se met à crier, à hurler. Aidez-moi, 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 ils sont tous morts, ils sont tous morts, ils sont tous morts. On lui demande de se calmer et il a du mal à se calmer. Donc il reprend à zéro, il nous dit écoutez, allez au Bataclan, allez au Bataclan. Il y a beaucoup de morts, c'est en train de tirer.
Avec ses deux collègues, Pamela compose le premier équipage de police à se rendre au Bataclan.
On regarde les alentours, on se regarde et on voit personne. On voit rien, c'est le calme plat. Pas de coups de feu, pas de gens qui hurlent. Soit on n'est pas au bon endroit,
soit c'est une blague en fait, parce qu'il n'y a strictement rien. Là, d'un coup, au moment où on s'avance, on entend des coups de feu. On se rend compte que les portes sont grandes ouvertes, qu'il y a des bris de vitres partout, et qu'il y a un individu qui est assis, adossé, contre un mur, avec une balle au milieu du front.
Il est 21h47, lorsqu'un troisième commando, composé de trois terroristes, fait irruption dans la salle de concert. ...1500 spectateurs sont présents au Bataclan. Autant de proies pour les terroristes armés de leur Kalachnikov.
Oui, bonjour, on vient de prendre des balles à côté du Bataclan. Mon mari est blessé, moi aussi.
On les appelle des gens qui sont dans le Bataclan ou devant, donc qui sont fait tirer dessus devant le Bataclan. On les appelle des gens qui sont coincés dans le Bataclan. On les appelle des proches que les gens coincés dans le Bataclan ont appelé.
Il est à l'intérieur, lui, il est encore vivant et tout ça. Et il entend que tout le monde est en train de se faire tirer dessus. Il s'est planqué dans les toilettes.
Très bien,
bien sûr.
On les rassure, on leur indique quoi faire aussi. On leur dit de couper, de se cacher, de faire le mort s'ils peuvent pas faire autrement, de couper le portable.
Plusieurs minutes après l'arrivée des terroristes, des centaines de personnes sont encore prises au piège à l'intérieur du Bataclan.
Il y a un individu qui sort du Bataclan et qui m'agrippe et qui me dit « Venez, 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 ma femme est dedans, venez, venez. » Et les tirs continuent. Je commence à tirer la personne avec moi. On est accroupis, arme à la main, on rase le mur et on voit des gens sortir du Bataclan en courant. On leur fait signe de me rejoindre. Il y en a certains qui étaient blessés, grièvement. Il y a certaines personnes, ils n'avaient plus du tout de pieds, plus du tout de jambes. On les aide, on les traîne et on continue notre chaîne humaine. Jusqu'au premier immeuble. C'est une grande porte cochère marron. Et y a le collègue, il arrive. Et puis il met des coups de pied, des coups de pied. Il a ouvert la porte. Et c'est un grand hall d'entrée, bien lumineux. Et on décide en fait de cacher les gens à l'intérieur. Les personnes, quand elles arrivent, la plupart nous disent tous la même chose. J'ai de la famille dedans. J'ai une femme dedans. J'ai des enfants dedans. Aidez-moi. Il faut y retourner. On voit les gens qui s'amassent, qui s'amassent, qui s'amassent. Ma collègue, pour faire des garrots, a pris son blouson de police et l'a déchiré en plusieurs morceaux. On n'a pas de moyens et on se dit au final, en gros, ça va finir en cimetière, quoi.
On est bien tous conscients qu'on est face à quelque chose qu'on n'a jamais vécu, que le pays n'a jamais vécu. Autant de morts dans Paris depuis la Libération, en fait. C'est une vraie catastrophe et c'est en cours. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, je vais y aller, je vais partir.
À son tour, le docteur Nicolas Poirot se dirige vers le Bataclan.
Au comptoir Voltaire, je suis plus utile. Alors que quelques centaines de mètres plus loin, il y a le Bataclan. On va direct au Bataclan.
Sur place, des renforts commencent à arriver. Mais dans la salle, des tirs se font encore entendre. Un à un, les spectateurs tombent sous les balles des terroristes.
Quand on arrive au Bataclan, on descend. On met nos casques, on prend le fusil à pompe. On va tout de suite à l'angle du passage Saint-Pierre-Amelot. Là, il y a les sorties de secours sur notre côté gauche. Et surtout, on a le véhicule des terroristes qui est à quelques mètres de nous. On se met d'accord, mes équipiers et moi, que personne ne doit reprendre ce véhicule.
un moment donné, il y a deux personnes qui nous rejoignent. Il y en a un, c'est un commissaire. Donc on lui explique la situation, il nous pose des questions. Il nous demande combien de personnes sont dedans, si on a pu distinguer. On les laisse progresser tous les deux, donc jusqu'à l'entrée du Bataclan, et on entend des tirs.
Il est 21h59. Avec leur seule arme de service, ce commissaire et son équipier parviennent à toucher l'un des terroristes présents sur la scène du Bataclan. Sa ceinture explosive se déclenche aussitôt.
Le premier terreau neutralisé. Dans la foulée, on a essuyé une première rafale de kalach. La kalach, ça a un bruit particulier. Tu sens que c'est puissant. Et au moment où j'aurais pu riposter, en fait, il y avait un civil, un jeune homme assez petit, mais trapu, avec les cheveux, avec des locks. Il tirait un corps, une personne blessée, au sol, il le tirait. Bon, il a dit, dégage, casse-toi. Mais il bougeait pas. On reprend une deuxième rafale. Là, j'identifie que le tireur, il est à la porte de secours. Et je peux riposter parce que le rasta qui tirait le corps, en fait, il s'est couché sur le corps. Je recule. Je recharge mon fusil. Il se passe encore quelques minutes. Le terreau, il rouvre la porte en grand. Et il se dissimule derrière. En fait, on avait juste le bras qui dépassait de la porte avec la kalach. On prend à nouveau une rafale. Moi, je riposte. Et sur mes terres de riposte, en fait, je vois qu'il y a le bras du terreau qui s'affale, qui s'abaisse avec la kalachnikov. Et il referme la porte de secours lentement. Et là, j'ai mon rasta qui me regarde et qui me fait... Je fais, mais qu'est-ce qu'il a, ce con? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça a touché? Est-ce que ça n'a pas touché? En tout cas, le résultat escompté. Et là, on avait fait cesser les tirs.
Après avoir perpétré une tuerie dans la fosse... Les deux terroristes encore en vie montent à l'étage et se retranchent dans un étroit couloir. Avec eux, 11 spectateurs, désormais pris en otage.
Je me souviens bien de cette soirée, je suis à un concert de jazz.
J'étais en train de regarder une série sur une plateforme de streaming.
Et donc là, je vois le message, il est très simple. Hein. Attentat sur Paris, alerte générale, retour service.
Et là, je regarde ma compagne, je dis, bon, bah, écoute, je pars de suite.
Alors que le RAID et la BRI sont dépêchés au Bataclan, plus au nord, au Stade de France, il est 21h53. Lorsque le troisième kamikaze se fait exploser rue de la Coquerie, 7 personnes sont grièvement blessées.
À ce moment-là, on ne sait pas s'il y a d'autres terroristes dehors, s'il y en a un quatrième, un cinquième. Nous, on peut gérer ce qui se passe à l'intérieur du stade, mais dehors, on ne sait pas. On laisse sortir personne.
Le match France-Allemagne ira jusqu'à son terme, sans faire davantage de victimes autour du Stade de France. Au Bataclan, en revanche, le temps presse pour sauver les personnes qui peuvent encore l'être.
Le commissaire de notre service nous réunit. Il était devant moi, mon regard était
en ligne directe des portes battantes du Bataclan. Il nous explique en gros avec des mots que je retiens. De l'autre côté, c'est un carnage. Ceux qui veulent rentrer rentrent, ceux qui ne veulent pas, je leur tiendrai par rigueur. Il n'y a pas eu besoin de concertation, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Il nous dit, il faut y aller, on y va.
Alors qu'une prise d'otage est en cours à l'étage, Alain pénètre au rez-de-chaussée du Bataclan.
Je me dirige entre la fosse et le bar du Bataclan. Et on voit ce monticule, ce tas, enfin je ne sais pas comment on peut nommer ce qu'on voit, mais on voit des gens, on voit des gens.
C'était assez glauque. Désolé. C'était assez glauque. Il y avait une odeur qui est... Ça sentait le fer. Une odeur de fer, comme à l'hôpital.
Allez, on y va. À gauche.
Et à ce moment-là, on se rend compte du carnage. On se rend compte de l'horreur qu'a vécu les gens enfermés à l'intérieur. Ils ont vécu l'horreur.
À un moment, il y a des téléphones qui se lèvent, et comme un appel au secours, comme une fusée de détresse. Je suis là, venez, venez.
Il y a des gens qui crient à l'aide, il y a des gens qui font juste des petits bruits, des gloussements, ou des personnes qui roulent sur elles-mêmes, ou qui gesticulent, ou qui essayent de bouger un membre ou un autre. On se dit, la personne, elle est vivante.
Allez, on y va, on y va.
Sous la menace des terroristes encore retranchés à l'étage,
les terroristes auraient pu nous rafaler, hop, circuler, il n'y a plus rien à voir.
C'est au docteur Mathieu Langlois qu'est confiée une opération de la dernière chance.
Je sais que c'est beaucoup de blessés et je fais un raccourci médical, on va dire. Hôpital, bloc opératoire, le plus vite possible. Devant la fosse, je vais dire, tous ceux qui peuvent marcher, venez vers nous. Et moi, je le dis deux fois, je crois. Je me souviens d'un regard et d'un bras levé, mais malheureusement, personne n'a bougé. On ne va pas attendre, il faut aller les chercher.
Le médecin nous désigne un blessé. Il est médecin, il sait que cette personne, si on l'évacue maintenant, peut vivre.
Je me souviens d'une femme qui avait pris malheureusement un impact au niveau cérébral. Je sais que son traumatisme est trop important et que ses chances de survie sont quasi nulles.
Le premier qu'on sort, on regarde un petit peu derrière, savoir sur quoi on marche. Parce qu'il y avait des cartouches, il y avait des gens, il y avait des bouts de gens. Ma deuxième sortie, on ne fait plus attention. Il y a un blessé, il a besoin de soins, urgence. C'est la mission, quoi, d'aller au plus vite.
À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des barrières de sécurité, les barrières Vauban. On met les gens dessus. C'est pas une personne, on en mettait deux, trois sur les barrières. Et on soulève les barrières et on les amène jusqu'aux pompiers.
Les policiers, ils ont été extraordinaires. C'était des policiers de la BAC ou du commissariat. Ils n'avaient jamais, comme nous, préparé et imaginé des situations comme celle-là.
Il est 22h20. L'opération de sauvetage touche à sa fin lorsque les effectifs de la BRI arrivent au Bataclan.
Entre le moment où je suis appelé et le moment où je suis devant le Bataclan, il y a moins de trois quarts d'heure. Ça va très vite.
Brice et ses camarades vont avoir la lourde tâche de libérer les otages et de mettre hors d'état de nuire les deux terroristes retranchés à l'étage.
Mon rôle, c'est de prendre position devant le Bataclan pour sécuriser l'entrée principale puisque les collègues vont rentrer par l'entrée principale. Donc je cours le plus rapidement possible avec mon équipement, une petite trentaine de kilos. Et il faut aller le plus rapidement possible, prendre position. Je pense que ce jour-là, j'ai battu mon record de sprint. Et là, les collègues commencent à progresser et commencent à investir en Bataclan. On sécurise les placards, les recoins, les faux plafonds, les gaines, enfin tout. Donc ça avance pas à pas de façon assez lente. Une fois que le bas de la salle de concert est sécurisé, il y a deux escaliers et là, ça continue à progresser. Il y a deux portes. On comprend qu'il y a une porte qui est bloquée et que derrière, il y a des otages. C'est là que ça va se passer.
Il est 23h15. Une phase de négociation démarre avec les terroristes.
Les terroristes sont arc-boutés sur leurs revendications. À un moment donné, la négociation va pas fonctionner. Et faut lancer l'assaut. Notre chef de service lui prend une décision très lourde. Hein. Quand il dit feu vert, il peut s'attendre le lendemain à aller annoncer des mauvaises nouvelles à des veuves ou à des orphelins.
L'assaut est imminent et il s'annonce particulièrement périlleux.
Petite zone, un tube, couloir, avec beaucoup d'otages, avec deux individus armés avec gilet Explo, des armes longues, des AK-47, donc avec une munition très perforante. Et il faut y aller en se disant, faut libérer des gens en fait. On ne peut pas se permettre de blesser ou de perdre un otage dans un assaut. S'il y a un otage qui est tué par un tir de policier, l'assaut, c'est plus réussi en fait, c'est un fiasco.
Il est minuit 18. Derrière son imposant bouclier, la colonne de 15 policiers de la BRI donne l'assaut.
La porte est ouverte. Le porte-bouclier, il encaisse le feu des terroristes qui tirent. La riposte est immédiate. On balance des grenades assourdissantes. Pendant tout ce temps-là, les collègues se retrouvent avec des otages, donc il faut évacuer, parce qu'il faut les évacuer au maximum. Les terroristes pètent, le premier pète, donc lui, il explose. Il souffle, le deuxième terroriste, il est soufflé aussi. Les collègues continuent à progresser, hein. Il voit le deuxième terroriste, il le voit au sol, chercher son détonateur, en fait, son déclenchement. Et non neutralisé. Ah mais ça se joue à quelques secondes, mais... Ouais.
Bilan de l'assaut, un policier de la BRI blessé à la main. Les otages, eux, sont tous vivants.
On n'était pas seuls ce jour-là. Voilà. Non, c'est miraculeux. La chance. La réussite. Voilà. Plutôt la réussite.
L'assaut terminé, il faut maintenant faire sortir les personnes encore présentes dans le Bataclan.
Et il y avait des personnes qui étaient réfugiées à l'étage du Bataclan. C'est des gens qui ont fui par les faux plafonds. Voilà, ils ont trouvé des chemins, je ne sais pas comment.
On va mettre 5 échelles de pompiers, on va prendre des binômes de sapeurs. Et donc, moi, à ce moment-là, je monte en haut et il faut juste, en quelques secondes, arriver à recréer du contact et leur montrer qu'on est là pour les aider.
Regardez pas, madame.
Je me souviens d'une femme en particulier qui elle était sidérée et c'était... Il n'y avait pas de communication, à part qu'elle ne voulait pas bouger. Je lui ai dit, je m'appelle Mathieu et on va sortir ensemble. C'est tout, hein.
Ils ont fait descendre un petit garçon. Ils lui ont mis un petit casque sur la tête pour pas qu'il voie ce qu'il y avait autour.
Ce flux de personnes qui voulaient fuir l'enfer, dans leur regard, c'est la peur, c'est la terreur.
Après plusieurs minutes d'évacuation, le Bataclan est maintenant vide de ses vivants.
On va rentrer dans le Bataclan par la sortie de secours. Et là, c'est indescriptible, en fait. La scène du Bataclan est vide, elle est complètement vide. Il n'y a personne sur la scène, il y a juste les instruments de musique. Au pied de la scène, il y a une Kalachnikov par terre, toute seule. Et là, il y a 90 morts. Tous les blessés ont été évacués, il n'y a plus de vivants, il n'y a que des morts. Là. Plus que des morts, il y en a beaucoup, ils sont les uns sur les autres. Et on se dit, mais c'est l'enfer, quoi. C'est horrible.
Avec la tuerie perpétrée au Bataclan, les attaques terroristes du 13 novembre font 130 morts et 493 blessés.
Les primo-intervenants, ce soir-là, ont joué un rôle extrêmement important dans l'évacuation des blessés, des victimes, dans leur prise en charge, dans leur prise en compte. Certains ont échangé des coups de feu avec les terroristes.
Plus tard dans la nuit, j'ai retrouvé le Rasta. Et j'ai dit, mais... Il me dit, ah, c'est toi qui es à l'ongle. Je fais, ouais, mais... Pourquoi t'es pas parti ? Il me dit, j'aurais pas pu la laisser. J'ai dit, mais c'est une copine à toi, tu la connais ? Il me fait, ah non, je la connais pas. Moi, je passais quand ça a tiré. Et j'ai dit, je pouvais pas la laisser. J'ai dit, ouais, mais t'as risqué ta vie. Il me dit, ouais, mais toi aussi. Il me fait vraiment le câlin, il me dit, ouais, bon, bah merci.
Au central, il est 2h30, nos collègues nous attendent. Ils font une tête, on va dire, un peu particulière, ils sont un peu horrifiés. On leur pose la question, mais est-ce qu'il y a un souci ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? On nous dit, bah écoutez, descendez au vestiaire et regardez-vous, en fait. On a les mains remplies de sang, ça c'est sûr. On a les vêtements aussi, on le voit tachés. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on a le visage aussi. Le visage, les cheveux, tachés de sang, remplis de sang. Des morceaux de peau humains dans les cheveux, sur les épaules, dans le cou. Et en fait, on s'en est pas rendu compte.
Je suis rentré chez moi, j'ai pris une bonne douche. Et je me souviens que oui, j'ai fondu en larmes pour, je pense, essayer de digérer tout ça.
Après 4 jours d'une intense chasse à l'homme, les deux terroristes des terrasses encore en liberté sont repérés dans cet immeuble de Saint-Denis, où ils trouvent la mort au terme d'un assaut mené par le RAID. La France peut reprendre son souffle et panser les plaies du 13 novembre. Mais pour les intervenants de la première heure, la tâche s'annonce autrement plus compliquée.
Les psys, j'ai pas jugé utile d'aller les voir, parce que je pensais que j'allais bien. On pense qu'on va bien. C'est un tort.
Psychologiquement, je me dis en fait, j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, je suis vivant. Et il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu des enfants, un frère, une sœur, un parent.
On a des réveils qui sont pas forcément évidents, même la nuit, parce qu'on garde beaucoup d'images en mémoire. On a une odeur aussi qui reste.
On a une irritabilité relativement importante. On compte les nombres de personnes en terrasse. On regarde les issues de secours à chaque fois.
Moi, personnellement, j'ai demandé à ne pas sortir, à faire du poste, à rester à l'intérieur.
On a quasiment un tiers de nos effectifs engagés ce soir-là qui a été suivi psychologiquement, parce que c'est juste horrible en fait. Hein. C'est juste abominable ce qui s'est passé.
Après le temps du choc, vient le temps du doute et de la remise en question.
On se dit qu'on aurait pu faire plus, parce qu'on a vu tellement de personnes décédées qu'on se dit que ces personnes-là méritaient peut-être de vivre aussi.
J'aurais voulu essayer de prendre en charge certains blessés. J'aurais voulu faire mieux.
Ce sentiment de ne pas avoir pu sauver et aider un maximum de victimes, ça m'a vraiment rongé, ça.
J'ai peut-être pris une mauvaise décision. J'ai peut-être pas fait les bons gestes.
On ne peut pas refaire le match. Donc on vit avec ça, quoi.
avec nos regrets, nos amertumes, notre culpabilité, voilà, et on vit avec ça, quoi. Et c'est difficile, parfois.
C'est pas possible, quoi. Ça a canardé à tout va.
Ce soir du 13 novembre 2015, tous les primo-intervenants ont répondu présents, parfois au péril de leur vie.
La calache, tu sens que c'est puissant.
Sans toujours disposer d'une préparation et d'un équipement adapté.
Ma collègue, pour faire des garrots, a pris son blouson de police et l'a déchiré en plusieurs morceaux.
Heureusement, depuis ce drame, du chemin a été parcouru.
Aujourd'hui, nous sommes beaucoup mieux armés. On a outillé, équipé les primo-intervenants, formé les primo-intervenants pour qu'ils puissent, dès le début de l'attaque, être utiles.
Les fusils d'assaut, du matériel de protection, du matériel de communication, des véhicules plus adaptés.
Maintenant, vous avez des exercices sur une masse.
Vous enlevez vos sacs et vous les posez au sol.
Ou vous avez toute la chaîne de secours qui est déployée, que ce soit SAMU, pompiers, militaires, policiers, gendarmes.
Allez, on protège.
Ici, au SAMU, on a formé un maximum de gens en région parisienne et puis en province à la médecine de guerre. On a fait évoluer notre matériel, on a fait évoluer notre doctrine d'emploi.
On s'est mieux préparé, on sait mieux faire face à ce type d'événement, et en renseignement et en intervention, mais il faut toujours rester prudent. On ne pourra jamais atteindre le risque zéro, ça n'est pas possible.
10 ans après, des leçons ont été tirées. Mais pour ces policiers, pompiers, médecins, et stadier, tous plongés dans le chaos du 13 novembre, les stigmates de cette soirée d'horreur resteront présents encore longtemps.
On est là pour ça, on s'entraîne pour ça, mais quand on le vit, on aimerait ne pas l'avoir vécu en fait. En tout cas, moi je sais qu'une partie de moi-même est restée sur le trottoir.
Même si t'es fort mentalement, etc., ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Ça, c'est sûr.
Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des films trop violents. Un jour, je me suis surpris à regarder Gulli.
J'arrive toujours pas à passer par le boulevard Voltaire, la rue Oberkampf. C'est un secteur que j'évite. Même si mon GPS me dit d'y passer, je fais demi-tour et je trouve un autre chemin. J'y arrive pas.
Chaque date anniversaire, ça revient, ça remonte à la surface. Ouais.
Que ce soit les 7 ans, les 8 ans, les 9 ans, les 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, on y pensera toujours.
Moi, le 13 novembre, je m'oblige à aller en terrasse avec les gens que j'aime. Pour moi, c'est important de célébrer ce jour-là. Ce ne sera pas juste un anniversaire morbide, ce sera aussi un anniversaire mine de rien de l'humanité, de la vie, de la joie, de la France, en fait. Tout ce que représente la France.